en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous sur Canal Académie pour votre émission En Séance, votre rendez-vous avec les séances publiques de l'Académie des sciences morales et politiques, séance traditionnellement organisée chaque lundi à 15h en ce qui concerne l'Académie des sciences morales et politiques. Tous les lundis, donc, séance publique à 15h en salle des séances du Palais de l'Institut de France, quai de Conti à Paris. Une communication publique prononcée par un membre de l'Institut de France ou une personnalité extérieure autour d'un thème. Et cette année, faut-il faire confiance aux historiens ? Question posée par Jean Tullard, le président de l'Académie des sciences morales et politiques en cette année 2005. Et chacun des intervenants du lundi est invité à prononcer une communication autour de ce thème. Je vous propose de retrouver tout de suite et d'écouter la séance prononcée le lundi 17 octobre 2005 par Jean-Claude Casanova. Jean-Claude Casanova, membre de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques en l'occurrence. Par ailleurs, directeur de la revue Commentaire depuis sa création. Rappelons que Jean-Claude Casanova fut également conseiller de M. Raymond Barre, Premier ministre entre 1976 et 1981. Et puis, membre du Conseil économique et social, Jean-Claude Casanova, que nous retrouvons donc tout de suite en salle des séances pour cette communication intitulée « L'histoire avec des si ».
Si l'Académie des sciences morales n'avait pas été créée, si je ne m'étais pas adressé à elle, j'aurais fait le même cours devant un auditoire infiniment moins brillant que celui que j'ai la possibilité d'avoir aujourd'hui. La question que je me propose de traiter est à la fois un sujet de conversation, offrant donc les agréments, les surprises, les effets de la conversation. C'est aussi un objet de réflexion qui permet de distinguer entre l'histoire, simple chronique des événements du passé, et l'histoire, instrument privilégié de la réflexion politique et donc de la philosophie et de l'éducation. Alors d'abord, comment désigne-t-on cet exercice, faire l'histoire avec des si ? Faire l'histoire avec des si, les Anglais disent « what if ?» Il y a d'ailleurs des collections de livres anglais, des collections de morceaux choisis qui portent ce titre. C'est un titre évidemment qui diminue un peu, qui est prosaïque, qui diminue un peu le sujet, et on peut lui donner des termes plus abstraits. On dit aussi l'histoire contrefactuelle ou l'histoire virtuelle. Et un de nos compatriotes au XIXe siècle, Charles Renouvier, avait inventé un substantif féminin, l'uchronie, construit à partir du grec comme l'utopie, utopos sans lieu, ou chronos sans temps. L'uchronie, selon la définition même qu'en donne Renouvier, c'est l'histoire refaite en pensée telle qu'elle aurait pu être et qu'elle n'a pas été. Et il existe des bibliothèques entières, plutôt d'ailleurs en langue anglaise qu'en langue française, je reviendrai sur cette distinction, sur ce sujet qui a beaucoup préoccupé quelques historiens. Par exemple, on a fait allusion à « Si Napoléon avait gagné Waterloo ». Dès la fin du XIXe siècle, il y a des livres qui traitent le sujet. Un grand historien anglais, Trevelyan, a fait un article, un essai sur le sujet, et Robert Aron lui a consacré un livre. Mais c'est aussi un genre entier qui concerne le roman de science-fiction. Et notre président, qui sait tout, a la dernière fois fait allusion au livre de René Barjavel, de 1944, je crois, « Le voyageur imprudent ». Alors, il a raconté l'histoire. C'est quelqu'un qui n'aime pas Napoléon, mais qui a la possibilité de voyager dans le temps, qui va remonter au siège de Toulon pour éliminer le jeune Napoléon, qui tire. Mais entre lui et Napoléon se situe un officier, un militaire, je ne sais plus, il y a tellement longtemps que j'ai lu le roman, et c'est lui qui reçoit la balle et qui meurt. Or, il advient que c'est un ancêtre de Barjavel, et donc nous sommes dans un cercle parfait, puisqu'il est allé dans le passé, il a tué un de ses ancêtres, et donc comme cet ancêtre est nécessaire à sa vie, il ne peut pas survivre. Et cette série du voyageur dans le temps, soit qui remonte dans le passé, soit qui remonte dans l'avenir, est un genre complet de la science-fiction, très répandu. Il faudrait une communication entière pour en montrer les ressorts, mais l'idée est la même. Un personnage intervient dans la chaîne des événements de façon à la modifier. Il va dans le passé pour faire dérailler le train de l'histoire et lui faire prendre une autre bifurcation, ou bien il va dans l'avenir pour prévenir tel ou tel événement qui aurait dû nécessairement se produire. Alors j'ai dit, le sujet de conversation est très répandu, plein de modèles historiques me viennent à l'esprit, et je ne les énumérerai pas, bien sûr, mais je prendrai quelques exemples. Le premier, traité par un grand historien anglais, sont les Espagnols gagnent le 8 août 1588, dans la Manche, un peu avant Dunkerque, la Grande Armada l'emporte. Alors, si la Grande Armada l'emporte, le plan militaire de la Grande Armada était parfait. C'est une très grande flotte, 20 000 hommes de troupes l'attendent à Dunkerque, c'est une troupe aguerrie. Une fois cette troupe débarquée en Angleterre, de la côte anglaise à Londres, il y a très peu de distance, Elisabeth est à Londres, et elle connaîtra inéluctablement le sort qu'elle a infligé à Marie Stuart. Et donc, pourquoi ça ne s'est pas produit ? Ça ne s'est pas produit pour diverses raisons dans lesquelles on peut invoquer le climat, la capacité des Anglais de recharger leurs canons. Ils avaient des canons plus courts, et donc ils les retournaient et les rechargeaient plus rapidement que les Espagnols, et ils tiraient trois fois plus de coups de canon que les Espagnols. Ça, c'est l'interprétation technique, il y a l'interprétation climatique, il y a plein d'interprétations, mais les Anglais ont gagné contre la Grande Armada, alors que techniquement, stratégiquement, ils auraient dû perdre. Et l'historien anglais qui commente cet événement ajoute, mais les Espagnols auraient-ils gagné ? Ça n'aurait pas changé grand-chose, car la vraie cause de la fin de l'hégémonie espagnole ou de l'échec de l'hégémonie espagnole, c'est tout simplement l'endogamie territoriale des Habsbourg. Et l'endogamie territoriale des Habsbourg les condamnait à de mauvaises filiations, à des personnages hésitants, etc. Et l'hégémonie espagnole n'aurait pas survécu à la race qui la gouvernait. Le deuxième grand exemple qui est souvent pris par les Anglais ou les Américains, c'est l'échec de la Révolution américaine, c'est-à-dire que Washington perd contre les troupes anglaises, ce qui aussi est très concevable. Les Anglais ont mal manœuvré militairement. À plusieurs batailles, Washington et les Américains ont eu de la chance. Et on a vu en 1812, quand les Anglais venus du Canada ont écrasé les États-Unis, que des troupes anglaises bien commandées pouvaient facilement venir à bout des troupes américaines. Donc le triomphe de la Révolution américaine est presque un triomphe du hasard, et on peut reconstruire l'histoire avec des États-Unis qui gardent le statut colonial qu'ils avaient et qui, à travers le temps, évoluent comme l'Australie ou comme le Canada. C'est-à-dire que le développement économique se serait produit exactement de la même façon, les économies d'échelle aurait joué, l'espace aurait permis la très grande productivité qu'ont connue les États-Unis, il y aurait eu la même évolution économique, mais dans un modèle politique fondamentalement différent, ce qui aurait évidemment modifié la position de l'Angleterre en Europe et la position de l'Angleterre dans la dernière partie du XXe siècle. On peut continuer ainsi de façon très longue, mais si on réfléchit sur les historiens et sur les sujets de conversation que je viens d'invoquer, on voit au fond que l'attitude uchronique ou l'attitude « mais s'il s'était produit tel ou tel événement » est généralement commandée par trois catégories de facteurs. Il y a ceux qui veulent introduire absolument dans l'histoire humaine des événements naturels. Il y a ceux qui veulent insister sur la disproportion entre les petites causes et les grands effets, et ceux qui veulent insister sur le rôle évidemment particulier dans l'histoire des grands hommes. Et d'ailleurs, vous retrouvez cette préoccupation dans les deux très célèbres pensées de Pascal, qui sont uchroniques l'une et l'autre, puisqu'il y a la fameuse pensée sur le nez de Cléopâtre, où Pascal, au fond, fait intervenir l'amour comme désorganisateur de l'évolution historique et politique. Si on n'avait pas aimé Cléopâtre, l'histoire romaine aurait été fondamentalement différente, et donc l'histoire occidentale. Et de même, à propos de Cromwell, il fait intervenir le calcul, le grain de sable, dans une autre pensée. Et le grain de sable, évidemment, c'est la mort. Il y avait l'amour pour Cléopâtre et la mort pour Cromwell. La mort d'un grand homme modifie fondamentalement l'évolution historique. Mais vous voyez immédiatement comment, comme sujet de conversation, l'uchronie ne plaît ni aux historiens ni aux étudiants. J'ai toujours aimé l'Uchronie, je l'ai toujours pratiquée, mes maîtres Raymond Aron et d'autres la pratiquaient constamment, et j'ai toujours constaté que je provoquais chez mes étudiants ou chez mes collègues historiens la plus grande irritation. Et la raison, l'irritation est parfaitement compréhensible si on se souvient du texte de Tocqueville, que j'ai déjà cité, dans lequel Tocqueville explique que dans les âges démocratiques, les hommes préfèrent une conception de l'histoire dans laquelle on insiste plus sur la nécessité que sur la liberté. Et il y a dans la conversation uchronique, si vous voulez, toute une série de choses qui expliquent l'agacement. D'abord, vous dévalorisez le réel et le nécessaire. Vous expliquez que les choses auraient pu être différentes, donc vous remettez en question ce qui s'est passé et ce qui a pu paraître nécessaire. Ensuite, vous exaltez les possibles. En exaltant les possibles, c'est un art qui convient aux chimériques, mais qui déplaît évidemment à ceux qui ne le sont pas. Vous exaltez le hasard. Alors, ça convient aux sceptiques, aux aventureux, mais ça ne plaît pas à ceux qui ne sont ni sceptiques ni aventureux. Vous favorisez l'esprit polémique. J'ai choisi une citation d'un polémiste célèbre, Léon Daudet, parfois un peu sot en politique, mais plein de talent. Alors, lui, voilà Léon Daudet, il dit « Philippe VIII, le duc d'Orléans, avait été exilé en 1886. S'il avait régné, l'affaire Dreyfus, œuvre de la police allemande installée dans notre sûreté générale par la volonté maçonnique, n'aurait pas eu lieu. La finance internationale eût été bridée et la guerre de 14-18 eût été écartée. » Donc, petits effets, grandes causes, si vous voulez, l'exil du comte de Paris a provoqué l'affaire Dreyfus, l'affaiblissement de la France et la guerre de 14-18. Alors, ce topo, si vous voulez, de polémiste, évidemment, fait enrager ceux qui ont des idées exactement opposées aux polémistes qui les prononcent. Ensuite, l'Uchronie est utilisée comme artifice compensatoire. On refait une histoire différente de celle que l'on n'aime pas. Et l'on montre donc la fragilité d'un processus historique qui ne vous a pas plu. Mais au-delà, si vous voulez, de tous ces piquants, de toutes ces aspérités qui rendent incertain le genre, il faut bien voir malgré tout qu'en profondeur, l'Uchronie fait partie de l'exercice intellectuel. Et puisque j'ai cité une phrase un peu sotte de Léon Daudet, je citerai une phrase beaucoup plus intelligente de Paul Valéry. En 1932, il écrit « Observez ceci sur vous-même. Toutes les fois que l'histoire vous saisit, que vous pensez historiquement, que vous vous laissez séduire à revivre l'aventure humaine de quelque époque révolue, l'intérêt que vous y prenez est tout soutenu du sentiment que les choses eussent pu être tout autres, tournées tout autrement. À chaque instant, vous supposez un autre instant suivant que celui qui suivit. À chaque présent imaginaire où vous vous placez, vous concevez un autre avenir que celui qui s'est réalisé. » Et ce que dit Valéry est incontestable, et je crois qu'on ne peut pas réfléchir sur l'histoire ou sur la politique sans avoir ce sentiment. Alors je pourrais continuer sur le mode de la conversation. Je vais le faire avec deux anecdotes parce qu'elles sont un brin amusantes. L'une est le cigare de Guillaume II En 1889, Buffalo Bill fait des tournées en Europe. Il est accompagné d'une charmante américaine originaire de Cincinnati qui a un maniement excellent des armes à feu et qui, à 10 mètres, peut éteindre le cigare de celui qui le fume, sans bien entendu le blesser. Elle est à Charlottenburg avec Buffalo Bill. Ils sont dans la salle, elle annonce qu'elle va faire son numéro, et bien entendu, elle dispose d'un complice qui est son mari. Mais à peine a-t-elle annoncé qu'elle va tirer le coup de feu, que Guillaume II, qui est présent, se lève, il est roi, il règne, il est empereur depuis un an, Guillaume II se lève et se porte candidat. Consternation de la police allemande, si vous voulez, mais impérieux, Guillaume II a sorti son cigare et les policiers n'osent pas se placer entre lui et la femme qui tire. Elle hésite, elle prend son courage à deux mains, elle tire et elle éteint le cigare de Guillaume II. Mais ensuite, elle a écrit ses souvenirs et elle a dit « J'ai eu tort, à 10 centimètres près, j'aurais évité la guerre de 14 puisque le pangermanisme, la Weltpolitik, etc., c'est Guillaume II Et sans Guillaume II, on aurait eu une alliance raisonnable entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui aurait donné une autre forme d'équilibre européen. Deuxième anecdote, aussi vraie, nous sommes à l'hiver 1931, sur la 5e avenue à New York. À l'époque, elle est encore, on peut circuler dans les deux sens. Il est minuit, un homme titube, il est imprégné d'alcool, un taxi arrive. Va-t-il freiner ? Il ne freine pas, l'homme est atteint mortellement. Le lendemain, dans le New York Times, nous avons l'obituaire, et l'obituaire dit « Le fils de Lord Randolph Churchill vient de mourir. C'était un aristocrate anglais qui avait eu une carrière politique dévastatrice, un échec dans les Dardanelles, une politique économique inconsidérée et une attitude impérialiste en Égypte en 1920. Et d'autre part, il abusait de l'alcool. Conséquence de la mort de Churchill en 1931, Lord Halifax, soutenu par Lloyd George, en juin 1940, conclut un armistice avec Hitler. Mais le taxi avait freiné à temps et Churchill avait simplement été blessé. C'est donc le chauffeur de taxi qui a sauvé à la fois l'Angleterre et la civilisation. Petit fait, grande conséquence, mais sortons, si vous le voulez, de ces schémas et redevenons un peu plus sérieux pour examiner un essai historique qui a été fait par le meilleur historien militaire anglais, John Keegan, et qui porte après tout sur un moment décisif de la Seconde Guerre mondiale, qui est 1941. Alors, les Anglais font beaucoup de livres là-dessus, je vous l'ai dit, c'est qu'au fond, il y a une très grande différence entre les Anglais et les Français. On imagine plus facilement les défaites dans les guerres que l'on gagne que les victoires dans les guerres que l'on perd. Et je ne vois pas un historien français racontant Édouard Herriot, Édouard Daladier et Paul Reynaud en jaquette à Berlin en 1940 pour célébrer la victoire. En revanche, les Anglais éprouvent une très grande facilité, si vous voulez, à expliquer comment ils auraient pu perdre Waterloo et comment ils auraient pu perdre la Seconde Guerre mondiale. Mais si l'essai de Keegan est très intéressant, c'est parce que les protagonistes qui vont mettre en scène ont hésité, c'est-à-dire que les diverses alternatives historiques ont été possibles. Nous sommes avant la décision de Hitler de lancer, après qu'il l'ait retardé, l'opération Barberousse. Alors, premier témoin, Göring. En juin 1945, un officier britannique lui dit « Quelle est la plus grande erreur commise par l'Allemagne ?» Réponse de Göring. Ne pas avoir envahi l'Espagne et l'Afrique du Nord en juin 1940. Deuxième témoin, l'amiral Raeder, le chef de la marine allemande. Il pense dès 1940 qu'il faut se concentrer sur la Méditerranée, conforter l'Italie, saisir Gibraltar, l'Afrique du Nord, puis Suez, la Palestine et la Syrie. Je le cite, « Si nous nous emparons de la Turquie, le problème russe apparaîtra sous un jour différent. Fondamentalement, la Russie craint l'Allemagne. On peut douter que s'avancer contre la Russie dans le Nord deviendra alors nécessaire. » Trois fois de suite, Röder, l'amiral, proposera à Hitler des opérations strictement méditerranéennes dont le but est d'empêcher l'intervention directe et frontale sur l'Union soviétique. Continuons d'appeler les témoins. Rommel pense la même chose. En mars-avril 1941, chancelier se souvient, il va jusqu'à Tobrouk. Il souhaite la prise de Malte et de toute la côte orientale de la Méditerranée. Il pense que cela permettra d'obtenir du pétrole et des bases pour attaquer la Russie au sud-est. À l'appui de sa thèse, il dit, il a démontré qu'avec très peu de force, beaucoup plus, il a fait beaucoup de choses, et beaucoup plus évidemment aurait été obtenu par des divisions blindées prélevées sur les ressources qu'Hitler concentre sur le front du Nord. Alors regardons maintenant l'attitude de Hitler. En juillet 1940, la décès son ordre aux dirigeants militaires, la destruction de la Russie doit faire partie de notre combat. Le plus tôt elle sera soumise, le mieux ce sera. Si nous commençons en mai 1941, nous aurons 5 mois pour achever le travail. Toujours Hitler. Mi-décembre 1940, directive de guerre numéro 21. Les forces armées allemandes doivent être prêtes, avant même la conclusion de la guerre contre l'Angleterre, à écraser la Russie soviétique après une campagne rapide. Toujours Hitler, 23 mai 1941, directive de guerre numéro 30. Si et comment il serait possible, en conjonction avec une offensive sur le canal de Suez, de parvenir à détruire la position britannique entre la Méditerranée et le golfe Persique, est une question pour laquelle la décision interviendra seulement après Barbarossa. Autrement dit, Hitler a délibérément choisi l'affrontement frontal avec la Russie et a refusé ce que les Anglais appellent les stratégies indirectes ou la stratégie méditerranéenne. Keegan, excellent historien militaire, étudie le problème et dit il y avait trois voies concevables. Il y avait la route de Rommel, c'est-à-dire Tobrouk, le Caire, la Transjordanie, Bagdad. Il y avait la voie Bulgarie, Turquie, Anatolie, et de là, on allait vers Bakou, donc au bord du Caucase, et vers Téhéran. Et donc, on s'emparait du pétrole irakien, saoudien et iranien, et on était en bordure du Caucase russe, juste en face, du Caucase soviétique, juste en face, les ressources pétrolières soviétiques, mais ce qui impliquait la violation de la neutralité turque. Troisième voie possible par le Levant, la Grèce, où les Allemands sont déjà allés, bien entendu, puisqu'il y a eu une guerre des Balkans qu'ils ont rapidement gagnée, la Grèce, le Dodécanèse, le Dodécanèse qui est italien, une opération aéroportée sur Chypre, débarquement en Syrie, Mossoul et Bagdad, puis remontée au nord. Donc, Keegan dit, voilà les trois voies possibles. Éliminons la voie Rommel et regardons les avantages des deux voies qui restent. Keegan démontre sans grande difficulté, si vous voulez, que l'opération alternative aurait réussi sans difficulté. Par la voie maritime, c'est-à-dire en sautant de la paix des Balkans par les îles jusqu'au Levant, il fallait évidemment des opérations aéroportées, des transports maritimes, mais 20 divisions, dit Keegan, auraient suffi face aux divisions anglaises qui se trouvaient au Moyen-Orient et aux autres forces qui s'y trouvaient. 20 divisions auraient suffi pour s'emparer du Moyen-Orient. Or, 20 divisions allemandes, c'est exactement la force allemande qui est prévue pour le Caucase, c'est-à-dire le bas de l'offensive, de la grande offensive frontale sur l'Union soviétique. Cela aura suffi, dit Keegan, à menacer Staline sur la Caspienne et de permettre, après 1942, une meilleure position stratégique. La voie 1, c'est-à-dire la voie à travers la Turquie, la voie terrestre, implique la violation de la neutralité turque. On arrive par la Thrace et par la Bulgarie. Les Turcs sont des soldats courageux, mais ils sont à cette époque sans aucun équipement moderne. Keegan écrit, on ne voit pas ce qui aurait pu stopper Hitler. Donc, si vous voulez, cette voie était militairement possible. À partir de l'Anatolie, on arrivait au Caucase et au Moyen-Orient, et Keegan conclut, si Hitler avait utilisé sa victoire dans les Balkans au printemps 1941, pour conduire ses forces à des victoires en Anatolie et dans le Levant, conduisant elle-même à la conquête de l'Arabie et à un renforcement de sa position sur le flanc sud de la Russie, il aurait pu ensuite lancer une variante de Barbarossa, conçue comme un mouvement en pince et non plus comme un assaut frontal. On voit mal alors comment il n'aurait pas réussi. Évidemment, c'est sur la période 42, 43, 45, on peut continuer l'histoire, savoir ce qu'ont fait les États-Unis, la guerre avec l'Asie, etc. Mais sur cette opération, sur la décision stratégique centrale d'Hitler d'affronter directement l'Union soviétique, Keegan dit, il a choisi la plus mauvaise stratégie. D'ailleurs, les Anglais, et Churchill en tête, redoutaient l'opération au Moyen-Orient. Ils ont poussé les Soviétiques à l'initiative. Ils ont sans cesse dit aux Soviétiques « Hitler va attaquer », ce que les Soviétiques refusaient de croire, mais les Anglais ont sans arrêt nourri l'inquiétude soviétique. Ils ont espéré annoncer l'offensive allemande à l'Est. Et ils ont été remplis de bonheur, on l'a par tous les témoignages, lorsque cette offensive se produit, puisqu'elle garantit enfin à l'Angleterre ce qu'elle souhaitait, c'est-à-dire une lutte sur deux fronts. Donc le raisonnement de Keegan, l'interrogation historique de Keegan sur ce moment décisif de 1941 consiste à étudier la vision stratégique de l'histoire, la vision stratégique de Hitler, pardon, à partir des stratégies alternatives. Et on ne peut comprendre les faiblesses de la stratégie de Hitler que si l'on comprend en même temps les autres stratégies possibles. Autrement dit, le jugement stratégique, historique et politique n'est possible que par la méthode virtuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut comprendre, on voit tout de suite que Hitler a eu une attitude légaliste à l'égard de la Turquie, peut-être des souvenirs de la guerre précédente, mais incontestablement, il n'a pas voulu affronter la Turquie. Deuxièmement, le poids idéologique est considérable chez lui. Il y a un désir absolu qu'on voit dès 1940 d'affronter directement le bolchevisme et l'Union soviétique. On voit qu'il exulte en été et à l'automne 41 avec les premières victoires allemandes. Et on n'a aucune trace chez lui de regret, c'est-à-dire jusqu'à 1945, il n'y a aucune trace chez lui de regret vis-à-vis de la stratégie indirecte ou de la stratégie méditerranéenne. Et un historien allemand, d'ailleurs, vient de confirmer cette analyse en faisant une étude de la campagne française 39-40. Il démontre que ce qu'on a appelé le blitzkrieg n'était pas voulu en 39-40. C'est-à-dire que les Allemands ont réussi une guerre éclair parce que les choses se sont produites ainsi, mais ce n'était pas ce qui était conçu par l'état-major. En revanche, l'attaque contre l'Union soviétique était conçue comme un blitzkrieg. Autrement dit, la guerre avec les soviétiques, c'est un blitzkrieg qui a échoué. La guerre avec la France, c'est un blitzkrieg qui est arrivé presque par hasard ou par la situation ou par l'impétuosité des généraux allemands. Et il se peut qu'Hitler, aveuglé par la victoire à l'égard de la France, ait pensé que la même opération était possible à l'égard de l'Union soviétique. Mais admirons la modestie anglaise, car qu'est-ce qu'écrit le plus grand historien anglais vivant ? Nous devons être reconnaissants à Hitler de ne pas avoir choisi au printemps 1941 une stratégie indirecte plus subtile. Voilà le jugement. Alors à partir de là, il faut que je passe à ce que je vous ai annoncé, c'est-à-dire que l'Uchronie est un objet de réflexion au-delà de la conversation, même quand elle devient une conversation plus savante entre historiens militaires. Et le genre a ses lettres de noblesse, ses lettres de noblesse philosophiques. J'ai cité Renouvier et je vais citer Renouvier pour la France et je vais citer Max Weber pour l'Allemagne. J'ai cité le livre de Renouvier, donc, dont la deuxième édition est de 1876, livre qui a eu peu de succès, qu'on trouve d'ailleurs difficilement, qui a été réédité, mal réédité d'ailleurs, mais qu'on trouve difficilement, et qui est une esquisse, si vous voulez, de ce qu'aurait pu être l'histoire européenne. Si vous lisez la préface, vous voyez que Renouvier se moque de Voltaire. Parce qu'il dit, au fond, Voltaire n'aime pas Saint-Paul, c'est son droit, et il aime encore moins Constantin. Autrement dit, Voltaire regrette la christianisation de l'Occident. Et Renouvier ajoute simplement, Voltaire ne peut pas penser que les choses auraient pu être autrement. Autrement dit, Voltaire reste indirectement un disciple de Bossuet. Et dans son livre, Renouvier va faire une histoire de l'Occident comme si les choses avaient été différentes. C'est-à-dire que nous nous mettons au siècle des Antonins. Nous nous mettons au siècle des Antonins. Marc Aurèle meurt et ce n'est pas Commode qui lui succède. Celui qui lui succède a les mêmes opinions philosophiques que Marc Aurèle. C'est un stoïcien. Simplement, il prend la décision politique d'interdire et d'empêcher les religions orientales à Rome. Les religions orientales, c'est très bien pour l'Orient, mais ce n'est pas bien pour Rome. Rome a la philosophie universelle qui est le stoïcisme, et Rome a sa religion civique qui est indispensable à sa force politique. Le christianisme, donc, reste en Orient. Il reste en Orient jusqu'au XIIe ou XIIIe siècle. Autrement dit, l'histoire occidentale est une histoire sans christianisme romain jusqu'au XIIIe, XIVe siècle. Mais le christianisme revient. Simplement, le christianisme qui revient est un christianisme oriental et germanisé. Il faut savoir que Renouvier, comme Taine, est un de ces Français de la fin du XIXe siècle qui sont catholiques et qui deviennent protestants parce que le protestantisme est la religion de la modernité. C'est la religion de la liberté politique, c'est la religion du développement économique, c'est la religion qui fait bonne figure avec la science, etc. Et donc, au fond, Renouvier refait une histoire de l'Europe dans laquelle le catholicisme romain a été éliminé. Et il montre que c'est parfaitement possible, c'est-à-dire que l'Europe est chrétienne à partir du XVIe, XVIIe siècle, mais elle est réformée sans la réforme. Elle est réformée sans la réforme puisqu'il n'y a pas eu Rome, le Vatican, etc. Alors évidemment, le livre est un tout petit peu satirique et on comprend très bien pourquoi il a mécontenté, encore que Renouvier soit un très grand personnage de l'université française. Je n'ai pas vérifié, je ne sais pas s'il a siégé parmi nous, mais enfin, constamment, avec Révesson et avec beaucoup d'autres, il est dans les grands philosophes français du XIXe siècle. Mais vous voyez bien quel est son raisonnement, c'est que l'histoire aurait pu être différente et finalement, le christianisme occidental s'explique, ça confirme d'ailleurs ce que pensent les historiens. Le christianisme occidental s'explique par la politique romaine entre le 1er et le 2e siècle et par Constantin, c'est-à-dire par la décision qui est prise par Rome d'incorporer en son sein le christianisme. Max Weber va avoir une attitude semblable, simplement là nous abordons la philosophie allemande, donc le langage va être beaucoup plus abstrait. Il y avait un grand historien de l'Antiquité qui s'appelait Édouard Meyer. Et brusquement, en 1906, notre collègue Boudon sait ça bien mieux que moi, en 1906, Max Weber prend à partie Édouard Meyer parce que Meyer a écrit, voilà ce que dit Meyer, « Le déclenchement de la Deuxième Guerre punique est la conséquence d'une décision d'Hannibal, celui de la guerre de 7 ans, d'une décision de Frédéric le Grand, celui de la guerre de 1866, d'une décision de Bismarck. Ils auraient tous pu prendre une autre décision » et d'autres personnalités en auraient sans doute pris une autre. En conséquence, le cours de l'histoire aurait été tout autre. Donc là, nous sommes d'accord, c'est la position uchronique. Mais Meyer ajoute, il ne s'agit nullement par là d'affirmer ou de contester que dans ces cas, les guerres en cause n'auraient pas eu lieu. Cette question est absolument insoluble et oiseuse. Meyer raisonne comme la plupart de mes étudiants, chaque fois que j'ai formulé une proposition uchronique. C'est oiseux, on met Paris en bouteille avec des scies, ça ne tient pas la route, c'est idiot. Alors Max Weber se fâche. Et voilà la réponse de Max Weber. D'abord, vous allez voir qu'il va utiliser un argument de Meyer, le fameux argument de la bataille de Marathon, pour démontrer à Meyer que lui-même a défendu une thèse différente. Mais surtout, il va formuler abstraitement le principe de la nécessité de l'uchronie pour consolider le jugement historique. Il importe, dit Weber, de s'élever contre cette position qui affirme que des questions auxquelles on ne saurait donner une réponse, ou du moins une réponse incontestable, seraient pour cette simple raison oiseuses. Il n'y a absolument rien de oiseux à poser la question « Qu'aurait-il pu arriver si Bismarck n'avait pas pris la décision de faire la guerre contre l'Autriche en 1866 ?» Elle concerne en effet le point décisif pour la structuration historique de la réalité, à savoir quelle signification causale faut-il au fond attribuer à cette décision individuelle au sein de la totalité des éléments infiniment nombreux qui devraient précisément être agencés de cette manière-là et non d'une autre pour amener ce résultat-là. Et quelle est la place de cette décision dans l'exposé historique ? Si l'histoire prétend s'élever au-dessus d'une simple chronique des événements et des personnalités, il ne lui reste d'autre voie que celle de poser des questions de ce genre. Et pour autant qu'elle est une science, elle a toujours procédé de cette manière. Autrement dit, c'est carré, nous sommes en 1906, ça consiste à dire aux historiens, si vous voulez être sérieux, si vous voulez être des chroniqueurs, c'est votre affaire, mais si vous voulez être sérieux, vous avez une seule façon de raisonner, c'est celle-là, c'est-à-dire de faire des histoires virtuelles. Parce qu'en faisant des histoires virtuelles, vous avez la seule méthode qui permette de dire cette cause est importante, cette cause est plus importante qu'une autre, cette cause est accessoire. Autrement dit, dans la chaîne des causalités, vous pouvez démêler ce qui est. La réaction de Weber va profondément influencer Raymond Aron, qui va la reprendre dans son livre « L'introduction à la philosophie de l'histoire ». Livre qu'admirait profondément un grand historien qui était Marou, mais dont ce thème va être un des thèmes centraux du livre d'Aron. Il va reprendre la pensée de Weber en la décortiquant, c'est-à-dire qu'à la française, il va lui donner une allure plus analytique. Il dit « Le préjugé, l'attitude commune, fait osciller le jugement historique entre le scepticisme et le sociologisme. Le scepticisme, c'est la description, la chronique. On prend les sentiments des acteurs et on rapporte les événements aux sentiments des acteurs. » Le sociologisme, ce sont les propositions générales. La dictature amène l'aventure extérieure, l'inflation amène les troubles sociaux, etc. C'est-à-dire, on prend des grands ensembles et on montre entre eux une chaîne de causalité. Mais ni le scepticisme, ni le sociologisme ne permettent le vrai jugement historique, parce que, comme je vais essayer de le montrer en conclusion, le jugement historique se confond avec le jugement politique. Les hommes politiques prennent des décisions en termes de probabilité, en ignorant les conséquences et donc en construisant des histoires virtuelles. Et vous ne pouvez comprendre les hommes politiques que si vous procédez de la même façon qu'eux, c'est-à-dire en envisageant les futurs possibles. Alors, Aron découpe le raisonnement de Weber, et il dit il y a deux étapes, l'analyse, on découpe les différents effets pour voir l'évolution réelle, et on sépare, on choisit dans les antécédents, on isole un antécédent. On a toutes les séries, et on isole un antécédent, la décision de Hitler en 1941 d'attaquer d'abord l'Union soviétique. On isole cet élément. Une fois qu'on a isolé cet élément et qu'on a la série, qu'on a les différentes séries, les différentes lignes de causalité, où on a tout, la technique, l'économie, les forces, la logistique, ce que vous voulez, vous pouvez prendre n'importe quelle scène historique. Ensuite, vous construisez des évolutions irréelles à partir de l'événement, de la décision, de la personnalité, peu importe que vous avez choisi. Vous construisez des évolutions irréelles, ce sont des expériences mentales, tout simplement. Ce sont des possibilités objectives qui sont conformes à ce qui est connu. Elles doivent être conformes à ce qui est connu, elles doivent être probables. Il ne s'agit pas de délirer ou d'inventer n'importe quoi. Il s'agit de prendre le point que l'on veut étudier et de voir les trois ou quatre possibilités, étant entendu qu'il faut choisir des possibilités qui ont un contenu élevé de probabilité par rapport à ce que l'on sait de la période et des hommes. Et une fois qu'on a fait ces expériences mentales, on compare les images mentales avec les événements réels. Et quand on a comparé les expériences mentales avec l'événement réel, eh bien, on a le jugement historique sur ce qui a été essentiel ou ce qui ne l'a pas été. Autrement dit, si vous voulez comprendre la décision de Hitler en 1941, vous devez envisager les autres histoires possibles, et à partir de là, vous aurez le sens profond de la décision de Hitler. Alors, il est temps de conclure, mais vous voyez bien à quelle conclusion nous aboutissons, c'est que tout simplement le jugement uchronique permet de faire coïncider la réflexion et le jugement historique avec la réflexion et le jugement politique. Je vais reprendre encore des exemples politiques. En mars 1936, Hitler viole le traité de Versailles et le traité de Locarno. Il occupe la Rhénanie. Les arguments allemands sont juridiquement fallacieux puisqu'il dit la France a fortifié, donc nous avons le droit de venir. Mais il est évident qu'il viole les traités. La France veut une réplique militaire. Les élections approchent, mais enfin la France veut une réplique militaire. L'Angleterre, la Grande-Bretagne ne veut pas en entendre parler. On sait par des propos de Hitler, Hitler l'a dit lui-même, je me serai retiré. Bon. Donc, si vous examinez la décision de 1936 et que vous dites, vous comprenez immédiatement pourquoi elle appelait nécessairement Munich et 1938. Et ainsi de suite, autrement dit, à partir, vous voyez du coup l'importance considérable de 1936. Mais je peux continuer. En 1933, en remontant dans le temps, il y a eu une seule personne qui a proposé une intervention militaire contre Hitler. C'est le maréchal Pilsudski. Les Polonais ont dit « c'est pas difficile, ce sont des aventuriers, il y a une seule solution, ils sont faibles militairement, il faut une action combinée pour éliminer Hitler ». Alors mettez-vous en 1933. En 1933, Poincaré, l'échec de l'opération Rhénane est encore présent à tous les esprits. S'il y avait eu une intervention franco-polonaise sur l'Allemagne, les États-Unis auraient été contre, la Grande-Bretagne aurait été contre, la SDN aurait été contre, les journalistes de gauche auraient été contre, les journalistes de droite auraient été contre. Mais il n'empêche que, historiquement, c'est Pilsudski qui a raison. Parce que si on avait fait ce qu'a fait Pilsudski, évidemment, personne ne sait, mais il n'y aurait pas eu Hitler. Il n'y aurait pas eu Hitler et il n'y aurait pas eu toutes les conséquences d'Hitler. Donc, si vous voulez, l'histoire virtuelle de Pilsudski, le jugement politique, on comprend très bien pourquoi il n'a pas été appliqué. Mais en même temps, on voit bien que à quelles conditions il aurait pu être appliqué. 1917, les Américains, au lieu d'intervenir, se contentent d'une intervention diplomatique pour contraindre les belligérants au compromis. C'est tout à fait possible. Ça reste encore très mystérieux, l'intervention américaine en 1917. Pression anglaise, fausse manœuvre allemande avec le fameux télégramme allemand, guerre navale dans l'océan Atlantique, amitié à l'égard du peuple britannique et amitié à l'égard de la France. On peut invoquer tout. Quand je regarde les livres d'histoire, qui sont extrêmement naïfs, les livres d'histoire disent ça correspond à l'idéalisme de Wilson. Mais c'est prendre les causes c'est prendre les effets pour les causes. Parce que quand vous êtes le président des États-Unis et que vous allez envoyer quelqu'un du Middle West se faire tuer dans l'Argonne, vous ne pouvez pas lui donner des arguments réalistes. Vous ne pouvez pas lui dire « il est réaliste d'aller faire tuer dans l'Argonne ». Vous lui dites « nous allons faire une croisade ». Les Français croient que les Américains parlent de croisade parce qu'ils y croient. Ils parlent de croisade parce qu'ils sont dans une île lointaine et que vous ne pouvez déplacer les gens que si vous leur donnez des motivations. Autrement dit, les Américains ont parlé de croisade parce qu'ils avaient décidé de faire la guerre. Ils n'ont pas fait la guerre parce qu'ils parlaient de croisade. Ils ont parlé de croisade parce qu'ils avaient décidé de faire la guerre. D'ailleurs, Wilson ne voulait pas la faire en 14. Autrement dit, si vous voulez, cette décision américaine assez extraordinaire va avoir des conséquences non moins extraordinaires. Et une histoire parallèle était tout à fait concevable. Et du coup, la singularité de l'intervention américaine devient un élément que vous pénétrez beaucoup mieux. En substance, cela consiste à dire que dans le jugement uchronique, nous retrouvons l'ambiguïté et les probabilités du jugement et de la décision politique. Dans le jugement uchronique, nous retrouvons Poincaré tel qu'il est, Hitler tel qu'il est, Churchill tel qu'il est, Wilson ou Roosevelt tel qu'ils sont, c'est-à-dire des hommes qui hésitent, des hommes qui prennent des décisions en espérant des résultats probables, mais qu'ils ne peuvent pas connaître parce que l'avenir est incertain. Et donc, nécessairement, ils pèsent les incertitudes de l'avenir. On comprend donc que si on ne raisonne pas de cette façon, on ne raisonne pas du tout. Celui qui pratique l'uchronie, celui qui recherche dans tous les événements politiques quelles auraient pu être les autres décisions, les autres suites, les autres conséquences, si telle autre décision avait été prise ou si tel autre événement était survenu, insiste à sa façon sur la liberté et sur la contingence et prépare son esprit, et s'il est professeur, celui de ses élèves, à ce qui est en définitive propre à la politique, la décision et l'incertitude. Je vous remercie.
C'était Jean-Claude Casanova, membre de l'Institut, en l'occurrence de l'Académie des sciences morales et politiques. Jean-Claude Casanova prononçant une communication en séance publique le lundi 17 octobre 2005 devant l'Académie des sciences morales et politiques. Beaucoup de cordes à l'arc de M. Casanova. Faut-il rappeler qu'il fut conseiller de Raymond Barre entre 1976 et 1981. M. Casanova, membre actuellement du CES, le Conseil économique et social, et bien sûr directeur de la revue Commentaires. L'histoire avec des si, c'était le thème de cette communication dont vous pouvez retrouver l'intégralité du texte sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques. Voici l'adresse internet www.asmp.fr.